Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour tout le monde.
Bonjour. Pour cette dernière émission de l'année 2024, Olivier n'ayant pas pu nous rejoindre, nous ne serons que deux pour vous proposer nos lectures extraites des revues numéros 16 et 21. Commençons par une nouvelle de Jeanne Desaubry, une autrice qui nous a déjà souvent fourni de quoi alimenter cette émission. Petite précision, Jeanne vient d'écrire un nouveau roman, Jade, une femme impossible, aux éditions Ska Numérique, également sous format papier aux éditions Oursin. Voici donc Le goût du froid de Jeanne Desaubry.
Journal L'Union, décembre 2008, drame à Chalandreuse.
Hier soir, le corps sans vie du petit Éric, 9 ans, a été retrouvé affreusement blessé au centre du paisible village de Chalandreuse. La nuit était tombée quand la mère d'Éric s'est inquiétée de ne pas voir son fils. Le maître d'école, appelé au téléphone, a confirmé que le jeune garçon avait quitté l'école en même temps que ses camarades. Inquiète, la mère s'est mise immédiatement à la recherche de son fils. Devant son inquiétude, l'instituteur, M. Pinson, et une voisine se sont joints à ses recherches. C'est son maître d'école, M. Pinson, qui a trouvé le jeune garçon étendu sans vie près de la fontaine, en plein centre du village. Il portait la trace de nombreux coups au visage et à la tête, porté avec une violence extrême. La neige ensanglantée garde le mystère de cette sauvage agression. Le petit Éric ne semblerait pas, selon les enquêteurs, avoir subi de violences sexuelles. La brigade de gendarmerie entamée hier soir l'enquête de voisinage. De nombreux prélèvements ont été effectués sur la scène de crime, dont les résultats, de même que ceux de l'autopsie, éclaireront d'un jour nouveau c'est ce triste affaire.
Foutu bordel. Perplexe, le gendarme Baluchon se gratte l'occiput. La neige devrait être une aide, mais elle a été tellement piétinée qu'il est bien difficile de s'y retrouver. Le sang a gelé, il faisait déjà très froid à 17h et noir à 17h30. L'arme du crime, qu'est-ce qui a bien pu briser ce petit crâne comme un œuf ? Marteau, non. Manche de pioche, non. Pas des points nus, ça, au moins c'est exclu. Cherchez une pierre. Il y a du sang aussi sur la margelle, mais très peu. La glace de la fontaine a été brisée, des stalactites sont cassées au sol. Les projecteurs de scènes de crime ne réchauffent pas l'atmosphère, non. Il gèle à pierre fendre. Le photographe exhale des panaches de vapeur soulignés par ses flashs.
Éric, le maître est assis à son bureau, congelé, assommé par sa découverte. La rétine incapable de se défaire de l'image du gamin allongé dans le froid. Cette tache de sang diffuse dans la neige. Le cri de la mère lui résonnera longtemps dans le souvenir. Le drôle de regard de la voisine. Il entend détourner les rouages de la pauvre cervelle gavée de télé, de faits divers. Instinct masculin est égal pédophile, c'est connu. Pédophile, assassin, c'est tout un. Parano, ils sont tous devenus parano. Pédophile, non. Pédé, oui, mais personne ne le sait ici. Ou peut-être... La case d'Éric déborde comme d'habitude. Gilles Pinson se secoue, va jusqu'à la table, en sort des feuilles froissées, des coloriages inachevés. Des crayons mâchouillés. Il pose le tout sur la table, incapable de se décider. Qu'en faire ? A-t-il le droit d'y toucher ? Bah, idiot, pas de pièce à conviction ici, restons sérieux. Ce n'est pas un gamin qui peut l'avoir tué. Eric, pas un gros bosseur, hein ? Et pas brillant. Un gamin agité, bavard, un poil menteur, rouleur de mécanique, petit coq de basse-cour, prêt au rôle de chef de bande. Marée soudaine de honte, sentiment aigre de culpabilité. Le gamin, immobile, étendu devant la fontaine gelée, saisi par le froid. Le sang dans la neige piétinée. Être en vie alors que meurt un enfant. Un fait contre nature. Une culpabilité inévitable.
Le médecin sort de chez Julie. Ah, cette petite ne va pas bien. Ce patelin ne va pas bien et lui, le toubib, il va pas bien non plus. Tout à l'heure, il a croisé Gilles Pinson, son amant. Fichu cutéreux, intolérant, il soigne tout le monde ici, du curé au maire en passant par les gros fermiers et leurs ouvriers agricoles, comme le père de Julie, tiens. Ah, il est certain d'une chose, plus jamais il ne redirigera une seule ordonnance si un seul d'entre eux savait, non, soupçonnait seulement son homosexualité. Pourquoi est-il venu s'enterrer dans ce trou ? Il le sait, bien sûr. Ah, pourquoi repenser à ce divorce miteux ? La petite Julie, une rose sur un tas de fumier, celle-ci. Son père, atteint de cirrhose, la mère, un souillon pas possible. La grande s'est barrée, il y a un bail déjà, attiré par les lumières de la ville. Julie aime les animaux, les arbres. Elle parle aux fleurs, elle pleure pour une coccinelle écrasée. Non, pas à sa place cette petite beauté. Il faut soigner cette grosse grippe avant qu'elle ne dégénère. Mais elle l'a trouvée drôlement abattue. Beaucoup de fièvre, respiration sifflante. Oh, la pneumonie guette. Le docteur Major Zic se saoule de mots, mais le certificat de décès qu'il a dû signer pour les gendarmes tout à l'heure l'a rendu malade.
Julie claque des dents. Elle a le droit de dormir dans le lit des parents. Ça évite à sa mère de traverser toute la maison pour aller la voir au fond de son petit lit cage. Et puis, cette chambre est accolée au mur de la cuisine où ronfle le poêle. 1 ou 2 degrés de plus, ce n'est pas à négliger. La mère vient de sortir, ramenant le bol de bouillon qu'elle avait préparé. Maman, au vieux bas troué, les ongles pas roses, comme la maman de cette idiote de bêcheuse de Leslie, avec son nom de série de télé. Mais maman, qui l'aime, qui la chouchoute quand elle est malade. Son bouillon, Julie le dévore d'habitude, mais là, le froid a pénétré ses pieds. Le froid a remonté dans ses jambes, jusqu'à son ventre. Le froid s'est emparé de ses pensées. Le froid l'a pétri tout entière de ses doigts griffus, plante des serres acérées dans sa poitrine de petite fille effrayée. Est-ce que je vais mourir ? Mourir comme Eric ? Je croyais pas qu'on pouvait vraiment mourir comme ça. Je croyais qu'il fallait être vieux. Les pensées de Julie se délitent, s'effilochent, partent sur le flux de sa peur, le courant de la fièvre.
Eric sortait toujours le premier. Arrivait aussi le dernier. Son sac à dos à la main, tourné sur lui-même, puis lâché pour envoyer l'objet aux arêtes sourdes, taper les jambes des filles, ça... Courser le chat de la voisine, sonner aux portes, jeter des marrons avec une fronde, celle que le maître lui a finalement confisquée. Un sale type, amateur de gros mots, même des qui ne comprend pas, hein, qui ramasse tombé de la bouche des grands. Et m'a regardé sous les jupes des filles, les poursuivant jusqu'aux toilettes, secouant la porte pour leur faire peur. Julie était sa victime préférée. Timide, Julie, fragile, Julie. Ah, si facile de la faire pleurer. L'autre jour, le maître a puni le cancre parce qu'il ricanait tandis qu'elle récitait un poème de sa composition. Écrivez sur votre animal préféré à la façon de Desnos. Une fourmi de 18 mètres, allez. Julie a écrit sur son lapin. Ah, pas un vrai lapin. Chez elle, les lapins sont fermés au clapier. Ils sont faits pour être mangés. Alors, inutile de s'y attacher. Non, un petit lapin en peluche, qu'elle n'a jamais eu, envoyé par sa sœur pour Noël. Ah, il était si beau, si doux. Sa douceur, elle n'a pu que l'imaginer. Saisi par le père, avant même qu'elle ne puisse le serrer dans ses bras et jeter dans le poêle. Je veux rien de cette traînée dans ma maison.
Eric, en train de casser un à un les stalactites de glace. Fontaine magique, illuminée de bleu par la pureté du matin, baignée de rose par le couchant. Eric ricanant. Lui jetant les débris glacés, s'acharnant d'autant plus qu'elle le supplie d'arrêter. « Arrête !» Crie muet qu'elle ne peut sortir. « Arrête de casser le cristal de mon pays imaginaire, le miroir aux fées, la beauté magique. Arrête !» Il s'est tourné vers elle. Elle venait de trébucher à cause de ses chaussures trop grandes. Elle pleurait de rage et de désespoir. Il a ricané encore une fois.
Et pauvre naze, t'as même pas des vraies chaussures. Hein? C'est que des vieux trucs de ta poufiasse de frangine. Et c'est barré parce que c'était fait mettre en cloque par ton vieux.
La pierre était dans la main de Julie avant qu'elle ne s'en rende compte. Elle ne sait pas trop, elle a peut-être tapé plusieurs fois. Pieds nus, les chaussures ayant quitté ses pieds, elle a couru jusqu'à la maison, les souliers à la main. Elle est tombée plusieurs fois. Elle a frotté ses doigts dans la neige pour retirer le rouge. Finalement, il manquait une chaussure. Elle a cherché en pleurant. Elle est rentrée tard. On voyait déjà les premières étoiles. Depuis, elle n'arrive pas à se réchauffer.
Ça vous dit quelque chose, madame ? Le gendarme Baluchon dépose la chaussure sur la table. Il est intrigué. Cette chaussure... Elle correspond à certaines traces trouvées autour du corps du petit Eric. La chaussure, on l'a trouvée une centaine de mètres plus loin. À l'embranchement qui mène chez les parents de Julie, mais c'est du 38, chaussure de femme. Il y a quelqu'un qui chausse du 38 chez vous. Le gendarme Baluchon, la mère dans son dos, entrouvre la porte de la chambre. Ah, Julie paraît si menue, perdue dans le grand lit. Rouge de fièvre, l'enfant entrouvre à peine les yeux, tourne la tête et le voit. Crie ou jeûne. Un rêve. L'homme referme doucement la porte, se gratte le crâne, remet son képi. Le carnet de santé qui trône avec les médicaments sur le buffet de la cuisine dit 1m36, 30 kilos. Et 38, sûrement pas. Ce serait trop grand. Le docteur Majorzik n'en peut plus. La dépression le guette, tournée, éreintante. Et puis quand il est arrivé, Julie était inconsciente. Ah, c'est allé si vite. Hier, elle n'était que fiévreuse, il ne pouvait pas demander son hospitalisation quand même. Alors il regarde partir l'ambulance. Mais qu'est-ce qui a pu faire sombrer cette petite ?
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
C'était Ancrage, un extrait du CD Suzanne aux yeux noirs avec Annabelle Dodan, Nicolas Arnoux et Marc Gougeot qui a accompagné cette première nouvelle. Alors nous allons lire maintenant « Si par un soir d'orage, un voyageur » de Valentine Imhoff, une autrice que nous avons également souvent évoquée. Et ce sera cette fois-ci « Esperanza » par Marc Perron, qui rythmera cette nouvelle. « Non, vous allez pas me croire. À dormir debout, je vous dis. Jamais rien vu de tel. Je fumais tranquillement une clope sous la marquise en attendant mon TER. Il avait du retard. On sait bien comment c'est les TER. Hein. Toujours en retard. Et pourquoi ça? Je vous le donne en mille. Un accident de personne. Encore un. Comme si de nos jours, les gens avaient rien d'autre à foutre que de se jeter sous les TER. Non, ça devient un sport, presque un loisir, un peu une alternative au saut à l'élastique ou au parapente, pour ceux qui n'ont pas de pognon. Et là, voilà que la pluie se met à tambouriner sur la verrière. Oh, ça aurait pu être des grelons, hein. Mais un raffut, pas possible, hein, infernal. On n'aurait pas pu entendre les annonces sur le quai. Bon, de toute façon, des annonces, il n'y en avait pas. Le retard, il clignotait sur un écran. Oui, c'est comme ça de nos jours, hein. La communication sur écran. L'orage commençait donc à se déchaîner au-dessus, et comme souvent, dans ces cas-là, on éprouve une satisfaction intime à se trouver à l'abri. Puis on a une pensée fugace pour les pauvres gens qui se sont laissés surprendre par la flotte et se retrouvent souvent trempés en 5-7. Faut dire qu'il avait tergiversé cet orage. Il avait grondé, menacé le début, en début d'après-midi. Un peu comme un chien de garde qui aboie, parce qu'il a la trouille. Qui est pas aussi méchant que le proclame le panonceau chien méchant, lefté sur la grille du jardin. Et qui même se met à vous l'échouiller la main si jamais vous entrez. Eh ben, des fois, ça fait ça, l'orage. Il tourne. Il hésite, allez, tombera pas, et puis non. Voilà, qui renonce, il s'en va tonner ailleurs, ou bien nulle part. Il se dissout dans l'atmosphère, le ciel redevient serein. Il n'avait pas envie, non. Juste un petit cinéma pour nous rappeler nos peurs enfantines. Un petit souvenir de camping qui a mal tourné. Et surtout qu'il ne faut jamais, jamais se réfugier sous un grand arbre ou grimper sur son toit pour bricoler l'antenne de la télé. Et voilà qu'un gars arrive, essoufflé. Ah, il a couru, c'est évident. Il se place devant moi, entre moi et la voie. Je me mets à regarder les perles d'eau qui roulent sur le dos de son caoué noir. D'abord distraitement, et puis avec un intérêt grandissant. Oui, l'attente oisive du TER qui vient pas. Là. Alors je les observe, ces gouttes. Ah, elles fusionnent, elles s'alourdissent, et puis elles s'écoulent jusqu'à l'ourlet, et puis, une par une, commencent à imprégner le blue jean du type, méthodique, une vraie conjuration. Ah, c'est comme ça, les caouets, c'est jamais assez long. Oui. Toute l'eau qui ruisselle sur la matière imperméable, faut bien qu'elle aille quelque part, non? Gravité oblige, et généralement, le plus simple pour elle, c'est d'imbiber le pantalon. Au sec en dessous, mais trempé à partir des cuisses. C'est ça le caoué. Et voilà que je me dis qu'il est... Il est drôlement près du bord du quai, l'homme au caoué. Mais vraiment, près, hein? Tout au bord, comme s'il avait décidé de jouer à dépasser la ligne avec le bout de ses chaussures, les orteils dans le vide au-dessus des rails, un peu comme un chat là, qui pousse de sa papatte par chicno délicate un stylo, hein, une pièce de Pulse ou de Monnaie, juste pour le plaisir de les voir ou de les entendre tomber de la table. Et puis, un crachotis dans les haut-parleurs, un peu comme une toux, mais une toux féminine, hein, me fait lever la tête et tendre l'oreille. Ah, une arrivée annoncée sur la voie 2. voilà que le type devant moi fait un petit pas en avant. Un seul. Juste au moment où le train, mon train, se pointe. Et là, là, tout devient dingue. Le gars et son caoué sont happés. Des cris, des coups de sifflet, un signal d'alarme qui tonitrue, des freins qui hurlent, la pluie qui redouble, les éclairs qui lacèrent le ciel et électrifient toute la scène. Et dans toute cette confusion cacophonique et pyrotechnique, une brûlure sidérante. Un peu comme la piqûre d'un frelon, une belle bête, probablement asiatique, et puis plus rien du tout. Et je me réveille ici, dans cette cabine couchette, attachée avec des menottes, et j'ai comme l'impression qu'on n'est pas là, vous et moi, pour la bagatelle, hein? Et que vous n'êtes pas du genre causante non plus. Il doit vraiment y avoir erreur sur la personne, hein, je vous jure, madame.
Arrête ton char, Olaf. C'est ton père qui a organisé tout ce cirque pour te récupérer et pour avoir le plaisir d'entendre tes excuses. Oui, il s'est vraiment donné un mal de chien pour te retrouver et que tu puisses lui parler en face du bâtard que tu lui as fait dans le dos quand tu t'es barré il y a... 4 ans, presque 5. Et que tu as cru pouvoir t'affranchir de la famille, comme un grand. Et même la baiser, la famille, à sec, oui, on peut le dire. Heureusement que ta mère n'est plus là pour voir ça. Parce que t'as vraiment merdé, petit Olaf. Et t'as pas fait les choses à moitié. En siphonnant quelques-uns des gros comptes de la mafia. Et en détournant une partie de la clientèle de ton paternel à ton profit. Ah ça, t'as pas lésiné. Si c'est pas malheureux, pourquoi tant d'impatience, Olaf? T'étais son fils unique, son unique héritier. Et voilà où on en est, hein? Rends-toi compte, Olaf. On a quand même dû retarder le TER. Et t'as compris tout seul, parce que t'as oublié d'être bête quand même, hein, ce qui avait pu se produire. On a un peu aidé une jeune femme à passer à l'acte entre Metz et Pagny-sur-Moselle. Elle était pas trop sûre, on a dû insister. Et puis, il a fallu aussi trouver un autre pauvre type et le persuader de se jeter de son plein gré sur les rails. Et ça, ça a été coton. Un beau chèque à la veuve nous a permis de conclure l'affaire. Et comme ça ne suffisait toujours pas, on a dû payer une flopée de figurants pour animer les quais pendant l'attente et simuler la panique. Toute la promo de première année du Conservatoire d'art dramatique. Une représentation unique pour toi tout seul, Olaf. J'espère que t'as au moins apprécié. Enfin, ça faisait toujours partie du plan. On a commandé un orage, un vrai. Imagine, Olaf, un orage. Tout ça, le temps qu'on t'escamote pour te ramener à la maison. Alors, ta salive, Olaf, je te conseillerais de la garder pour ton paternel. Et t'as intérêt à bien le chiader, ton Laïus. Il te servira d'oraison.
Quelles sont les nouvelles sur RCN?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Terminons maintenant cette émission avec quelques pensées et proverbes qui parsemaient la revue numéro 21. Autour du thème « Les ailes du papillon ». Nous espérons qu'elles éclaireront ces journées hivernales avec le Petit Colibri, musique de Jean-Jacques Boulet.
Le plus beau papillon, n'est qu'une chenille habillée.
Proverbe français.
Même pour le simple envol d'un papillon, tout le ciel est nécessaire.
Paul Claudel.
En se posant sur la branche, le papillon craint de la briser.
Proverbe arménien.
La chenille devient papillon, le cochon devient saucisson, c'est une des grandes lois de la nature.
François Cabana.
Jusqu'à la tombée du jour. Certains papillons ne vivent qu'une journée. Et il s'agit pour eux du plus beau jour de leur vie.
Philippe Geluck.
La promesse de la chenille n'engage pas le papillon.
André Gide.
Oui, qu'a-t-on à dire sur le papillon ? Ah ! D'après Philippe Didion, pas grand-chose d'un point de vue entomologique. Quand on sait à peine identifier un cuivré commun, ou un petit sylvain, ou un bombex. L'auteur Nabokov, lui, était un champion des papillons. Il les a sans cesse chassés, dessinés, étudiés. Il n'est pas le seul. Tenez, songez au braconnier de Pagnol, dans « La gloire de mon père ». Vous vous souvenez de Edmond des papillons ? Oui. Et puis songeons également au papillon d'Henri Charrière, qui lui apporta la gloire et la fortune à lui, l'ancien bagnard. Ah, ça, on peut dire que ça fait de l'effet, papillon.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Eh bien, avant de vous donner rendez-vous en janvier, nous vous souhaitons des belles fêtes de fin d'année. Nous vous rappelons également que vous pouvez nous retrouver sur le podcast de RCN à l'émission « Quelles sont les nouvelles ?». Au revoir à tous et à toutes.
Au revoir.
Hop, 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 hop.